Bonsoir, la République démocratique du Congo et le Rwanda conviennent de faire avancer deux initiatives destinées à renforcer le suivi et la vérification de la mise en œuvre des accords de Washington. Il s'agit précisément de faire avancer le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et le comité chargé du suivi du cessez-le-feu et du contrôle des mouvements des troupes le long de la ligne de contact. Une décision annoncée jeudi dernier par Washington à l'issue de la 6e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les participants, parmi lesquels la médiation de l'Union africaine et les deux parties concernées, ont demandé aux États-Unis d'examiner ces initiatives et de présenter leurs observations lors de la prochaine réunion conjointe du comité. À cette 6e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité, la RDC avait également présenté son plan de désarmement, démobilisation et réinsertion DDR en sigle des combattants FDLR, un plan complété sur demande de mécanisme par un exposé de la MONUSCO sur son expérience opérationnelle dans ce domaine. Quelle pensée avoir pour cette quelle pensée de cette entente entre la RDC et le Rwanda sur ces points pour renforcer le suivi et la vérification de la mise en œuvre des accords de Washington? C'est le débat de ce soir. Et pour l'évoquer, nous accueillons Arsène Mwaka, professeur député national élu de Beni, territoire du Nord Kivu, cadre de l'Union sacrée de la nation. Arsène Mwaka, bonsoir.
Mais bonsoir, Dona Madimba.
Également dans ces studios, Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, bonsoir.
Bonsoir Dona, bonsoir à tous les co-débatteurs.
Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, ancien député du Nord Kivu, premier vice-président du parti politique de l'opposition Engagement Citoyen pour le Développement, SID en sigle. Et enfin Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'université de Lubumbashi, expert en questions de sécurité, défense et de maintien de paix de l'Institut Thalès d'Afrique basé à Dakar au Sénégal. Frédéric Amani, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre émission.
Okapi, active pour la paix.
La République démocratique du Congo et le Rwanda conviennent de faire avancer deux initiatives destinées à renforcer le suivi et la vérification de la mise en œuvre des accords de Washington. Il s'agit précisément de faire avancer le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et le comité chargé du suivi du cessez-le-feu et du contrôle des mouvements des troupes le long de la ligne de contact. Une décision annoncé jeudi dernier par Washington à l'issue de la 6e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité. Les détails avec vous, Bernardin Nyangui.
Par la RDC, le Rwanda porte notamment sur le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et le comité chargé de suivi du cessez-le-feu et du contrôle des mouvements des troupes le long de la ligne de contact. Il découle des conclusions de cette 6e réunion du mécanisme conjoint de coordination de la sécurité tenue le 12 et 13 août 2026 à Genève. Les deux États parties aux accords de Washington, ainsi que les États-Unis, le Qatar, le Togo et l'Union africaine, ont demandé l'examen par Washington de ces deux initiatives et de faire part des observations lors de la prochaine réunion du mécanisme conjoint annoncée pour les 16 et 17 septembre prochains. La RDC y a également présenté son plan de désarmement, démobilisation et réintégration DDR des combattants FDLR, complété sur demande du mécanisme par un exposé de la MONUSCO sur son expérience opérationnelle dans ce domaine.
Merci à Bernardin Nyangui, à Arsène Mwaka, professeur député national élu de Beni territoire du Nord Kivu, cadre de l'Union sacrée de la nation. Par faire avancer l'accord de Washington, que doit-on entendre au sujet de ces deux initiatives prises par la RDC et le Rwanda?
Merci beaucoup. Je voudrais commencer par saluer les co-débatteurs et encourager la population de Goma, Bukavu et partout ailleurs qui demeure sous occupation et regretter que cela soit possible. En fait, tout le monde sait, et il n'est secret pour personne, que l'accord de Washington est en difficulté dans l'exécution. Et il était prévisible que ça ne serait pas facile, puisque depuis plusieurs années, depuis les années 96, le Rwanda est sorti expert dans le talking and fighting. Le Rwanda adore se battre à dialoguant. Et ça fait partie de sa tactique de guerre. Et il était très clair qu'en allant à Washington, nous passions aller vers la plus grande puissance. Mais il n'était secret pour personne que le Rwanda tente de jouer encore, même si par des efforts gouvernementaux diplomatiques, le Rwanda a été pour une première fois mis à nu. Et tout le monde sait que le Rwanda est en agression, même si s'il utilise le vocabulaire comme moyen de défense et tout le reste, hein, il est très clair que le Rwanda est en agression au Congo et que quitter le pays, le Rwanda crée plusieurs mécanismes impossibles. Et je pense que l'initiative qui consiste à tenir le Rwanda sérieusement pour que des témoins du monde entier voient combien de fois le Rwanda veut rester au Congo et réaliser un projet macabre. Tous voient, ils le voient, et ce qui est très important, c'est que pour une fois, les mains et les pieds liés, le Rwanda est tenu à pouvoir donner lui aussi des éléments vérifiables qui prouvent que qu'il doit quitter le pays. Mais en même temps, pour notre part, puisque pendant très longtemps, connaissant l'adversaire, nous avons pris l'habitude de ne pas beaucoup nous occuper de ces prétextes. Pour une fois, le gouvernement a pris le taureau par les cornes en essayant de prendre des initiatives, dont l'initiative qui consiste à présenter un projet de désarmement, de mobilisation des FDLR qui constitue le principal prétexte du Rwanda. Et donc, en nous occupant comme ça de ce que le Rwanda désigne comme problème, nous allons vider tout ce qu'il y a comme problème et peut-être pour une fois amener à ce que le Rwanda soit condamné par non seulement les autres États et les grandes puissances, mais en même temps par des tribunaux internationaux. Et donc, j'apprécie énormément cette manière de faire, puisqu'il est très clair que la paix ne se va pas au marché, ce n'est pas vous donner de l'argent ou vous donner une marchandise, mais la paix, c'est un édifice qui se construit progressivement chaque jour. Et à bons Africains, je pense que la palabre africaine, c'est un dialogue continu. Et donc, ce n'est pas des mécanismes carrés que l'on appliquerait comme si on était dans une méthode exégétique. Mais c'est des édifices qu'on construit chaque jour, et je pense que cette initiative est aussi un autre mécanisme pour essayer d'édifier la paix, non seulement en RDC, mais aussi entre nous et le pays voisin.
Alors, puisqu'on parle de faire avancer les accords de Washington en faisant avancer le mécanisme conjoint de coordination sécuritaire et le comité chargé du suivi du cessez-le-feu, tout comme le contrôle des mouvements des troupes le long de la ligne de contact, ça signifie que ces mécanismes étaient statiques ou avaient des difficultés. Selon vous, où en est-on avec à la fois le suivi du cessez-le-feu et le contrôle des mouvements des troupes le long de la ligne de contact?
Oui, tout le monde sait que le Rwanda sort ses militaires par un camion. Vous pouvez observer six camions, vous dit le Rwanda est en train de sortir, et on sait que le Rwanda les remet encore à pied le lendemain. Et donc, c'est connu, et que on les a vus monter à bord des camions, prendre la direction du Rwanda. Mais tout le monde se méfie, on connaît la tactique, on la maîtrise, et c'est peut-être des mécanismes pour contrer cette manière de faire qui a trop longtemps manqué. Pendant plusieurs années, on a manqué des mécanismes pour bloquer le Rwanda pendant plus de 30 ans. Et donc, je pense que si on manque de mécanismes militaires, on peut trouver des mécanismes diplomatiques et nous faire aider par d'autres puissances. Et je pense que c'est là que se trouve l'initiative du gouvernement pour essayer de trouver ce qui est possible, puisque c'est quand même notre pays dont les difficultés sont connues sur le plan à la fois sécuritaire et militaire.
Alors, quand on demande à la fois aux États-Unis d'y jeter un coup d'œil et de donner ses appréciations dans les prochaines réunions, on rappelle que dans la réunion évoquée, les représentants des États-Unis étaient là. Qu'est-ce que ça signifie que les États-Unis jettent un coup d'œil et que pourraient dire les États-Unis à part peut-être entériner ce que la RDC et le Rwanda ont déjà signé à leur propre initiative?
Oui, et je pense que les États-Unis constituent jusqu'aujourd'hui la plus grande puissance à la fois diplomatique, militaire, économique, qui peut peser dans la signature des accords. Ils constituent entre guillemets des parrains de cet accord. Et puisque souvent on a accusé notre gouvernement de ne pas fournir des efforts dans le sens de faire attention aux accusations du Rwanda, je pense qu'on veut forcer les États-Unis à dire si on a mal fait, de croire qu'il va falloir démobiliser, et que c'est souvent le Rwanda qui refuse d'accueillir parfois ces démobilisés ou les recycler, les retourne au Congo. Et donc, à rendant les États-Unis témoins et à la fois censeurs de ce que nous avons signé avec le Rwanda, c'est clair qu'il y a quand même une force supplémentaire qui a longtemps manqué, depuis plus de 30 ans, qui peut peser dans la balance de manière directe. Et donc, il va falloir que nous puissions en profiter pour régler tout ce sur quoi le Rwanda s'appuie pour continuer à nous agresser continuellement.
Merci, professeur Arsène Mouaka. Vous restez avec nous dans ces échanges. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, ancien député du Nord Kivu, premier vice-président du parti politique de l'opposition Engagement Citoyen pour le Développement, SID en sigle, dans des formules un peu spécialisées, utilisées ici, de suivi du mécanisme et des troupes le long de la zone contact. Qu'avez-vous compris que la RDC et le Rwanda ont décidé de faire?
Le communiqué conjoint ou la déclaration conjointe montre exactement que le processus de Washington est à panne. Il est embourbé au même titre que le processus de Luanda l'a été, de la même manière que le processus de Nairobi. Et à cette allure, si nous, Congolais, les victimes directes de cette guerre, ne prenions pas notre destinée à main, eh bien, la crise du M23 dont souffrent nos populations depuis 4 ans à Bounagana, depuis bientôt 1 an et demie à Goma, Bukavu, Walungu, Kalembe, dans le Masisi, les Niragongo, Rutshuru, depuis bientôt 4 ans, Kanyabayonga et Kosor, Kitsumbiro, la crise M23 risque de s'enliser de la même manière que la crise des ADEF à Beni et à Nitouri. Pourquoi je dis que le processus de Washington est à panne? D'abord, la réunion de la semaine passée entre le Rwanda et la RDC, c'est l'avant-dernière après environ 2 ou 3 mois d'absence de réunion où les deux pays ne se parlent presque plus. Mais de l'autre, on constate que sur le terrain, le M23 a occupé de nouvelles positions jusqu'à Pouezero, dans le haut plateau de Mwenga, de Ufizi. On a connu de menaces de mouvements dans le sud Kivu particulièrement. De l'autre côté, le discours belliqueux a repris sa place. Vous suivez les gens de M23 dresser des menaces vers le Katanga, vers Beni, Butembo et Kosor. Entre-temps, Washington, comme nous venons de le voir, à partir de cette réunion, s'interdit de faire pression, d'user de ses leviers diplomatiques. Faire pression sur le Rwanda, faire pression sur l'M23, Washington s'interdit désormais de le faire, mais en même temps, pour des raisons de bonne image diplomatique, Washington tient à entretenir des relations avec les institutions de la République à Kinshasa. Bref, le processus, disais-je, il est à panne. Mmh. Et pour quelle raison, de mon point de vue, ce processus est à panne? Quatre principales raisons. D'abord, la crise congolaise n'est pas aussi importante pour les États-Unis qu'elle est la guerre en Iran. Quelques Congolais meurent à Minembwe, quelques Congolais meurent à Bunagana. Ça n'affecte pas l'économie. Ça n'affecte pas le prix du pétrole aux États-Unis de la même manière que le blocage du détroit d'Hormuz. Vous pouvez constater aujourd'hui que même la crise de l'Ukraine devient secondaire pour les États-Unis par rapport à la guerre en Iran. Et donc, ça c'est une première raison pour laquelle progressivement la crise congolaise perd l'attention des États-Unis. La deuxième raison, c'est que ni Kigali, ni le régime Félix n'a intérêt au retour immédiat de la paix. Kagame n'a pas besoin que la paix revienne le plus tôt au nord Kivu, au sud Kivu, à l'est. Tenez par exemple, rien que par la fermeture de l'aéroport de Goma, combien l'aéroport de Kigali gagne la clientèle de Bukavu de Goma, combien le taximen de Kigali du Rwanda viennent jusqu'à Goma. Un client qui quitte Goma pour l'aéroport de Kigali doit payer 100 dollars. Rwanda fait le plein. Est-ce que le Rwanda a intérêt à ce que demain l'aéroport international de Goma ouvre ses activités? Pas évident. Mais de l'autre côté, même à Kinshasa, est-ce que l'Union sacrée a besoin que la paix revienne demain, le plus tôt, et que l'Union sacrée ne dispose plus du discours d'un argument pour ne pas organiser les élections en 2028? Et pour nombreux dans l'Union sacrée, le maintien de la guerre dans la partie Est, c'est un business. Vous n'avez qu'à voir le détournement des fonds autour de l'état de siège. Personne n'a intérêt à ce que la paix revienne le plus tôt.
Et là, Jean-Baptiste, c'est quoi justement? Comme c'est une émission de débat, nous allons quand même essayer de temps en temps de récupérer la parole et de la redistribuer. Mais justement, vous dites que aucun de ces acteurs n'a l'intérêt de faire venir la paix le plus tôt. Mais il y a quelques jours, ils ont fait une déclaration conjointe, ils se sont entendus pour justement relancer cet accord, ces accords de Washington. Comment vous avez interprété cette déclaration conjointe, cette entente, puisque vous dites qu'ils n'ont pas intérêt à aller de l'avant?
Dans leur déclaration, ils promettent que une fois les États-Unis auront examiné les deux initiatives leur soumises par les deux belligérants, au mois d'octobre, ils devraient organiser une conférence tripartite à l'issue de laquelle sera élaboré un ordre opérationnel. Mais il y avait déjà, à septembre 2025, un ordre opérationnel qui devait être mis en œuvre à partir du 1er octobre 2025.
Est-ce que c'est en faisant une entente supplémentaire, est-ce que c'est la relance de cette mise en œuvre?
Non, donnant. De mon point de vue, les États-Unis et le Qatar cherchent une parade pour se retirer paisiblement de ce processus qui est à panne, passer le relais à l'Union africaine et au Togo. Or, nous savons depuis le processus de Luanda, le 6 juillet 2022, jusqu'à la situation où les États-Unis ont été sollicités, combien la médiation africaine avait échoué. Est-ce que là où l'Angola a échoué, c'est le Togo qui va faire avancer les choses? Encore que la médiation africaine a mis en place un panel constipé, je n'ai pas d'autre mot. Un panel de 5 anciens chefs d'État, vous savez comment on en est arrivé là, parce que le Kenya ne voulait pas que Uhuru prenne le relais. Et donc, ce panel-là, qui est d'office bloqué dans sa composition, ne va pas nous aider à sortir n'est-ce pas, de ce bourbier, il nous appartient, nous Congolais, de tirer les conséquences de tous ces blocages et reconnaître que ceux qui sont en train de mourir à Uvira, ceux qui meurent à Minembwe, ceux qui meurent dans le Masisi, à Tongo, dans le Béni, ce ne sont pas des Américains, ce ne sont pas les habitants du Qatar, c'est d'abord nous. Et donc nous devons nous approprier la recherche de la paix. C'est dommage que nous soyons là à attendre.
Mais est-ce que justement, je repose encore cette question d'une certaine manière, mais est-ce que le gouvernement ne rencontre pas votre préoccupation, c'est-à-dire se soucier de mettre fin à ces atrocités en essayant de trouver une entente, de trouver des avancées avec le Rwanda et avec les différents médiateurs qui sont autour de la question RDC-Rwanda?
Non, le régime Félix a commis la même erreur de se faire des attentes démesurées de l'intervention américaine, de la même manière que Félix l'avait dit après l'adhésion de la RDC à l'EAC. Vous vous rappelez, Félix a dit, aussitôt que les troupes kenyanes vont entrer par le Bunagana, nous allons voir ce que deviendra le sort des Pantins. La réalité, c'est que les troupes kenyanes ne sont jamais entrés par Bunagana, ils sont entrés par les Rwanda et ont servi de bouclier au M23. De la même manière, après la signature des accords de Washington, nous avons vu les gens de l'Union Sacrée faire la fête ici, comme si les Américains allaient déployer des militaires sur les lignes de front. Mais triste constat de ces jours, disais-je, c'est que le processus de Washington est à panne. Est-ce qu'il n'est pas temps que nous fassions tous pression sur ceux qui sont à Goma, comme ceux qui sont sur ceux qui sont à Kinshasa, qu'on réexamine l'initiative des évêques et pasteurs, que nous, victimes congolaises, nous nous approprions notre processus de paix, parce que il n'y a pas de solution militaire.
Merci.
Il n'y a pas de solution qui va venir de l'extérieur.
Merci.
La solution va venir de nous, peuple congolais.
Merci Jean-Baptiste Kasekwa, Moïndo Kasekwa. Restez aussi avec nous dans cette émission. Les échanges continuent. Frédéric Amani, chercheur associé en sciences politiques et relations internationales à l'Université de Lubumbashi, expert en questions de sécurité, défense et maintien de paix de l'Institut Thalès d'Afrique, basé à Dakar, au Sénégal. Quelle est votre lecture de ce qui se présente aujourd'hui comme une, entre guillemets, avancée?
Malheureusement, je ne dirais pas avancée, parce que on est toujours dans un statu quo, dans la mesure où il faut attendre 2 mois, 2 semaines, pour qu'une rencontre se tienne, soit à Genève ou à Washington ou à Rwanda, et quelques temps après encore on revient à la case de départ, malheureusement. Et donc, il est vrai que les initiatives de stabilité ou les initiatives pour permettre à ce que la paix revienne à l'Est sont, n'est-ce pas, encourageantes, mais la crainte, c'est que toutes ces initiatives mises en place, n'est-ce pas, manquent d'autres ingrédients pour que ça aboutisse et ça conduise à des résultats escomptés. Et donc, on est, n'est-ce pas, des initiatives en initiative, mais sans, n'est-ce pas, une réelle volonté politique, mais aussi des engagements concrets de la part des acteurs impliqués pour le rétablissement de la paix, malheureusement. Donc, cette initiative, elle est la 6e, n'est-ce pas, ou la 6e réunion du mécanisme, mais on sent que quelques temps après, il y a eu un silence. Et aujourd'hui, on a essayé un peu de ressusciter, voilà l'expression que je vais utiliser, de ressusciter ces processus. Mais quelques temps après, rassurez-vous, il y aura encore un temps mort. Donc on va comme ça, et ça permet aux uns et aux autres de gagner du terrain et de matérialiser malheureusement leur agenda pour, n'est-ce pas, continuer à profiter ou... n'est-ce pas, de cette situation. Voilà comment on peut dire dans l'entrée des jeux de cette situation.
Frédéric Amani, est-ce que à ce stade vous manifestez du pessimisme ou bien vous semblez reconnaître que comme dans très souvent dans des processus de réconciliation entre nations ou entre pôles planétaires, ce n'est pas simple de mettre tout le monde d'accord, ça peut prendre quelques mois. Si on est bien intentionné, ça peut durer légèrement plus. Sinon, parfois, ça prend souvent beaucoup, beaucoup de temps avant de se mettre en place.
Tout à fait, c'est vrai. Je suis optimiste pour le retour de la paix, de la stabilité dans l'Est de la RDC et par ricochet dans la région des Grands Lacs. Mais en ce qui concerne le processus de Washington, je vais reprendre votre mot, je suis, n'est-ce pas, pessimiste dans la mesure où, je l'ai dit, chaque camp ou chaque acteur veut tirer les draps de son côté, malheureusement. Et il faut rappeler ici que il y a aussi cette déception ou cette réalité. C'est que pour Kinshasa, en signant cet accord avec Washington et le Rwanda, on était d'accord ou on était convaincu que les choses évolueraient très bien sur terrain et en sa faveur. Malheureusement, il y a cette déception. Mais aussi pour Kigali, à un certain moment, Kigali a pensé ou semblait dire que il était beaucoup chargé et que la RDC était un enfant chéri des États-Unis, voyez-vous, et que ces accusations mutuelles n'ont pas permis à restaurer un climat de confiance, que ce soit entre Kinshasa et Kigali d'un côté, mais aussi entre Washington et Kinshasa et Kigali, ce qui fait que on va des initiatives en initiatives ou des réunions en réunions sans, n'est-ce pas, une avancée positive ou réelle sur le terrain. Et un autre élément, je suis tout à fait d'accord, lorsqu'il y a conflit ou lorsqu'on va dans des négociations, ce n'est pas forcément que on accepte l'un au détriment de l'autre, mais ce sont des concessions qui se font, voyez-vous, et que ces concessions devraient aboutir à un processus de paix. Mais malheureusement, ces concessions sont, je dirais, de mon point de vue, chaque partie monte des surenchères pour faire avaliser son point de vue auprès des États-Unis. Vous l'avez dit dans votre reportage, ce qui est aussi étonnant, c'est que les deux parties, la RDC et le Rwanda, signent ces mécanismes, mais ils disent attendre des États-Unis pour vérifier. En quelque sorte, pourtant, ce sont des États. Je respecte bien leur souveraineté, mais en attendant que les États-Unis disent un mot, est-ce un aveu d'échec déjà de ces mécanismes? Voilà pourquoi, et je vais aller peut-être trop vite en besogne, voilà pourquoi il est souhaitable que au-delà de cet accord de Washington que nous saluons et pour lequel nous souhaitons que des actions concrètes soient posées sur terrain pour le retour de la paix et, n'est-ce pas, l'intégration régionale entre les nations, nous pensons que beaucoup d'efforts devraient être faits au niveau interne des États et ne pas attendre beaucoup de l'extérieur. Ça, c'est vraiment une erreur que la plupart, je vais aller plus loin, la plupart des États africains qui sont dans des situations complexes de sécurité ou de paix commettent d'attendre des efforts de l'extérieur alors que beaucoup d'efforts devraient être faits au niveau interne de ces États et que cela permettrait à ce que les efforts externes viennent appuyer ce qui est fait au niveau interne. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Mais nous pensons que les États-Unis, en tant que parrain de cet accord, et la part des responsabilités du Rwanda, et la part des responsabilités de la RDC, l'ensemble de ces efforts peut amener à ce que un climat d'attente, surtout cette confiance, soit retrouvé entre ces États et des actions concrètes soient posées pour le retour de la paix et de la stabilité dans cette partie meurtrie par des conflits.
Frédéric Amani, vous n'êtes pas dans les secrets de tout ce que les Américains peuvent concevoir et avoir comme ambition, mais est-ce que Jean-Baptiste Moïse de Kasekwa n'aurait-il pas un peu raison de se montrer sceptique? Dans tous les cas, on lui posera la question tout à l'heure de manière claire pour qu'il nous dise s'il est vraiment totalement sceptique, mais c'est ce qui semble se dégager de son analyse. Parce que est-ce que les États-Unis, qui sont capables de poser des actions de puissance indiscutables dans tous les coins de la planète, ils sont capables d'aller arracher un président de la République en fonction dans son pays pour l'amener aux États-Unis, ils sont capables de faire douter et faire vivre de la prudence à un État comme l'Iran, mais pour un conflit entre deux voisins en Afrique des Grands Lacs, où on sait que des pressions diplomatiques peuvent suffire, comment est-ce que les États-Unis, parrains d'un processus, n'arrivent pas à donner de la puissance qu'ils donnent souvent dans les autres opérations, notamment celles que je viens de mentionner?
Autre question. Voilà, ce qu'il faut savoir que la crise à l'est de la RDC est polycentrique, voyez-vous. Et face à une crise polycentrique, il faut, n'est-ce pas, des solutions holistiques, si je peux le dire ainsi. Il est vrai que les États-Unis restent la grande puissance au niveau mondial, bien que à certains égards peut être discutable, et surtout en Afrique, là c'est incontestable. Mais dire que les États-Unis ont un grand rôle à jouer par rapport à ce qui se passe à l'est ou dans la région des Grands Lacs, mais il y a, vous savez, j'ai parlé d'une crise polycentrique, et donc dans cette crise polycentrique, il y a plusieurs acteurs, il y a plusieurs enjeux, il y a aussi plusieurs causes. Et donc, je crois que, comme qui dirait, on veut déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. C'est-à-dire, il y a un effort qui peut être fait à gauche, mais contredit par un autre effort fait à gauche, à droite. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Dans la mesure où les États-Unis peuvent jouer ces rôles-là, mais quelque part aussi, le même États-Unis ou un allié des États-Unis ou l'allié de la RDC ou du Rwanda peut aussi poser un autre acte qui contredit les efforts que poseraient les États-Unis, que poseraient le Rwanda ou la RDC. Et voilà pourquoi je pense que, au-delà des efforts des États-Unis, il est temps que aujourd'hui la RDC se mette, n'est-ce pas, face à ces évidences et regarde ce qui doit marcher ou ce qui a marché par rapport à toutes ces initiatives et chercher à mettre en place une stratégie d'abord interne. Et j'insiste là-dessus et que la stratégie externe, notamment qui viendra des États-Unis, peut appuyer celle qui est mise en interne pour la paix. Donc,
Frédéric Amani, vous gardez la parole. Juste le temps de nous inviter, de vous inviter à tendre l'oreille pour écouter la réflexion de Dodé. Et ensuite, vous allez réagir à la fois à ce qu'il dit et compléter le fond de votre pensée.
Tokinda depuis Kisangani dans la province de la Tchop. Cette entente traduit la mauvaise foi des partis dans la mise en œuvre des accords de Washington. D'abord, au départ, un délai était accordé aux partis pour, d'une part, le Rwanda retire ses militaires sur le sol de la RDC. De même, la RDC devait entamer le processus de désarmement et rapatriement des combattants FDLR. Hélas, que plus de 6 mois plus tard, rien d'avancé sur terrain, le Rwanda continue à piéger davantage la RDC sur cette fameuse problématique des FDLR. Comment ce Rwanda qui a pu occuper l'est du pays pendant plus d'une année n'avait pas passé à cette question de désarmement et rapatriement des supposés FDLR au Rwanda à son temps? Demander cela à la RDC aujourd'hui n'est qu'un faux fuyard. C'est comme ça que la RDC doit s'organiser militairement au même moment qu'elle passe du temps aux malignités du Rwanda pour que même tard elle parvienne à imposer au Rwanda le respect de son intégrité territoriale au lieu de la négocier éternellement.
Frédéric Amani.
Bien. Ce que je note dans la pensée de l'auditeur, c'est que cette mauvaise foi de part de d'autres vient de la mauvaise interprétation ou ce qu'on peut qualifier des interprétations divergentes des engagements pris par les deux parties. Le Rwanda a son interprétation par rapport aux engagements pris par la RDC et la RDC aussi a ses interprétations qui sont différentes, bien entendu, par rapport aux engagements du Rwanda. Et c'est divergentes ou ces interprétations divergentes font que une crise de confiance apparaisse entre le Rwanda et la RDC et cette crise de confiance fait que chaque partie ne respecte plus ses engagements ou c'est à quoi il s'était engagé. Et malheureusement, on reste dans un statu quo. Ça, c'est de un. De deux, il y a aussi le problème du respect des cessez-le-feu, je l'ai dit, et ce problème du respect des cessez-le-feu vient du fait que chaque parti tire le drap de son côté et veut promouvoir, n'est-ce pas, son point de vue au détriment de l'autre. Et ce qui fait qu'on soit toujours dans un éternel recommencement, malheureusement. Aujourd'hui, en ressuscitant, je reprends encore cette expression, en ressuscitant ce processus de Washington, ce n'est pas pour de la poudre aux yeux, non. C'est pour que ça aboutisse à des résultats escomptés. Et cela dépendra du rôle que chaque acteur jouera. Les États-Unis, l'Union africaine, le Rwanda, la RDC. Mais un autre élément, monsieur Donat, on semble oublier que cet accord a été aussi intitulé comme un accord de paix et de stabilité dans la région des Grands Lacs. Et donc, d'un point de vue, je pense que au-delà de considérer le Rwanda et la RDC comme des États impliqués à cette conflictualité, il était temps que d'autres États de la région soient associés soit à cet accord de Washington ou à un processus qui peut être mis en place et que ces États associés aussi puissent s'imprégner de la réalité, parce que on a tendance à considérer seulement cette conflictualité entre le Rwanda et la RDC en oubliant le rôle que l'Ouganda joue dans cette conflictualité, en oubliant le rôle que le Burundi joue, alors que, comme je l'ai dit, le rôle que l'un joue au détriment de l'autre impiète ou dérange les efforts que les autres font, et ce qui fait qu'on soit dans un statu quo, malheureusement.
Merci Frédéric Amani. Nous aurons encore l'occasion de vous redonner la parole, notamment pour les conclusions de cette émission. Jean-Baptiste Mouindo Kasekwa, ancien député du Nord Kivu, premier vice-président du parti politique de l'opposition Engagement Citoyen pour le Développement et CIDE en sigle. Pour vous, nous allons écouter cette réaction de Beni.
Fabrice Sambili, depuis la ville de Beni au Nord Kivu. Je pense qu'avant même de croire à ce nouveau mécanisme de suivi, il faut se demander ce qu'est devenu l'ultimatum qui avait été fixé au 15 juillet par les USA, mais non respecté par l'AFC-M23. Parce que si l'AFC-M23 et derrière lui les Rwandais ont pu violer un ultimatum porté notamment par une grande puissance comme les États-Unis, nous devons nous poser de sérieuses questions sur la crédibilité de ces processus même. Est-ce que notre gouvernement était réellement sérieux et dans les engagements qu'il avait pris? Est-ce que les États-Unis ont réellement la volonté d'imposer le respect et de leurs propres exigences? Et surtout, est-ce qu'il n'existe pas au-delà des rapports de forces diplomatiques, des intérêts et qui expliquerait cette certaine tolérance? Parce qu'il faut se rappeler qu'en 2013, l'M23 avait quitté Goma sous une forte pression internationale sans qu'on ait besoin de multiplier autant de mécanismes de suivi comme on l'observe aujourd'hui. On nous parle encore des comités et des mécanismes conjoints, n'est-ce pas, des vérifications de ces self-faits, mais on doit se demander combien de mécanismes alors faudra-t-il encore créer avant de voir des résultats concrets sur le terrain.
Jean-Baptiste Bouindo.
Je suis parfaitement d'accord avec Sambili de Beni. Goma a connu sa tragédie de janvier 2025, de même que Bukavu, alors que sous la supervision des États-Unis, le Rwanda et la RDC venaient de signer à quatre reprises de cesser les feux. On a même parlé de trêve humanitaire au mois de juin 2024. Le Rwanda a complètement ignoré ça. Deuxième chose, les États-Unis maintiennent une très forte coopération diplomatique avec le Rwanda. On a parlé des accords autour de l'exploitation du traitement de l'uranium civil. On parle des accords autour de l'exploitation du tungstène du Rwanda. On parle des accords, n'est-ce pas, de protection par les militaires rwandais, des sociétés totales avec des capitaux américains et européens au Mozambique. Bref, nous devons regarder la réalité à face et reconnaître que le Rwanda bénéficie d'un parrainage historique des États-Unis. J'ai écrit un article dans Congo-Afrique autour de ces accords de Washington et montré que Depuis 1994, l'avènement du FPR au pouvoir, jusqu'à ce jour, les États-Unis ont toujours maintenu les mêmes narratifs, la même attitude diplomatique vis-à-vis du Rwanda, c'est-à-dire un non-reconnaissance de l'agression rwandaise contre la RDC. Deux, imposer toujours la grille de lecture d'après laquelle la guerre à l'est de la RDC connaît une double dimension, une dimension interne et externe. Trois, ne jamais sanctionner le Rwanda. Quatre, adopter le narratif d'après lequel l'agression rwandaise contre la RDC est justifiée par la présence des FDLR. Et donc, comme on l'a dit dans l'accord, ils sont là pour des mesures défensives et donc une agression légitime.
Mais Jean-Baptiste Moindo, les États-Unis peuvent avoir tous les intérêts que vous venez d'évoquer, mais n'oubliez pas que les mêmes États-Unis lorgnent, s'ils n'ont pas déjà la consommation des ressources de la République démocratique du Congo, ils lorgnent des ressources infinies comme le coltan, l'uranium, le cuivre, les forêts, le marché de la consommation des produits. Donc les États-Unis ne manquent pas aussi d'intérêt avec la République démocratique du Congo. Qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire que les États-Unis jouent à ne rien faire pour les deux pays, ou bien vous voudrez avantager l'un au détriment de l'autre?
Non, c'est l'échec diplomatique du régime de l'Union sacrée. Les États-Unis sont en train de gagner par la signature des accords minières dans le Haut-Katanga, notamment. Mais en même temps, le volet sécuritaire n'avance pas. Et donc nous serons floués de la même manière que sous l'AFDEL, les Américains ont signé beaucoup d'accords miniers. Ils n'ont pas exploité. Et 10 ans plus tard, ce sont eux qui ont vendu aux Chinois à un prix très très élevé après avoir obtenu ces accords, à un prix très réduit parce que nous étions en position de faiblesse. Nous sommes dans la même dynamique, simplement disais-je, au plan diplomatique, le régime de l'Union sacrée est très faible. D'abord, les États-Unis ne vont pas vous donner du crédit de la confiance lorsque votre gouvernance est caractérisée par la corruption.
Mais c'est quand même avec ces gouvernants qu'ils ont signé ces accords de Washington pour ramener la paix, mais aussi gagner des intérêts.
Et ils exploitent notre faiblesse. Ils obtiennent ces accords miniers qu'ils ne vont pas exploiter aujourd'hui. Et ils ne sont pas dès qu'ils ont la signature, ils ne sont pas tenus de s'en tenir au régime Félix. Pour eux, ces accords sont valides, même avec le régime post-Tshisekedi.
Jean-Baptiste Moïne de Kasekwa, merci. Nous reviendrons à vous pour justement donner une dernière prise de parole. Arsène Mwaka, professeur député national élu de Beni Territoire du Nord Kivu, cadre de l'Union sacrée de la Nation. Pour vous, ce dernier intervenant de Kisangani.
Je m'appelle Jacques Befonga Malumalu depuis Kisangani, province de la Tchouk. À mon avis, il faut saluer cette entente, mais sans tomber dans l'optimisme diplomatique. Washington joue un rôle de médiateur important, mais encore mitigé. Les accords existent sur le papier, tandis que leur traduction concrète sur le terrain demeure fragile. En plus, la RDC privilégie la voie diplomatique et les mécanismes de vérification, alors que l'attitude du Rwanda reste encore perçue plus offensive et arrogante. Or, un accord n'a de valeur que si les engagements sont effectivement respectés et vérifiables. Dès lors, renforcer le suivi est nécessaire mais insuffisant. Il faut des mécanismes indépendants de vérification, des responsabilités clairement établies et surtout des conséquences en cas de violation. Sans cela, Washington risque de superviser un processus diplomatique sans parvenir à mettre fin durablement à la crise. Merci beaucoup.
Arsène Mwaka.
Oui, je pense que il va falloir que nous soyons d'abord patriotes, mais en même temps que nous sommes patriotes, nous devons fournir des efforts pour être prudents. Et donc j'apprécie tous les propos qui appellent à la prudence, mais je pense que la prudence ne doit pas succomber au pessimisme. Je ne pense pas qu'il n'y a pas de quoi être pessimiste, mais on peut être dialectique. On peut être dialectique, c'est-à-dire dire qu'il y a des avancées, mais qu'il va falloir être prudent sur telle autre chose, faire autrement, ce n'est pas du patriotisme et ce n'est pas aimer son pays. Et je pense que pour ces choses spirituelles, c'est en même temps souhaiter du mal au pays. Et donc, je pense qu'il va falloir qu'on reste scientifique et qu'on analyse la situation du pays avec l'éclairage scientifique. Alors, l'intervenant de tout...
Allô, Arsène Mouaka, vous êtes encore là?
Nous sommes en face d'une situation connue où les deux États ne perdent pas de vue que dialoguer fait partie des tactiques de guerre depuis environ 30 ans. Et donc, dialoguer n'est pas innocent. Dialoguer n'est pas un acte neutre. Dialoguer, c'est défendre ses intérêts. Et ça ne nous étonnera pas que le Rwanda défende ses intérêts, que Washington cherche ses intérêts dans le dossier, que le Congo aussi cherche ses intérêts. Et donc, nous devons encourager les gouvernants, puisque nous ne sommes pas seulement dans un processus de paix, mais nous sommes dans la région des Grands Lacs, dans un changement de rapport de force et de leadership en Afrique centrale. Et donc, le tout se négocie à travers notre guerre contre le Rwanda. Et j'ai comme l'impression que pour une fois, il y a eu des efforts diplomatiques que tout scientifique neutre doit reconnaître. Il y a des faiblesses, bien sûr, qu'il faut désigner. Et nous savons qu'en même temps, aucun processus de paix n'est fait définitivement. Et qu'il va falloir que ce soit nous qui appelions les gens à venir vers nous. C'est le Congo qui doit appeler les autres à venir vers nous et à pousser les autres à pouvoir s'intéresser à lui. Parce qu'il y a eu des années où le Congo n'intéressait pas jusqu'à ce que la Belgique de Louis Michel a amené le Congo, remis le Congo dans le monde. Toutes nos crises désintéressaient le monde entier. Et donc, je pense que cet effort qui est en train de croître va faire que dans les jours et dans les années qui arrivent, le Congo va reprendre sa place de leader en Afrique des Grands Lacs et en Afrique centrale. C'est cela notre vœu et c'est même ça notre prière pour ceux qui sont spirituels.
Alors allez-y, allez-y. Terminez-vous.
Oui, est-ce qu'il faut un mécanisme indépendant et ainsi de suite? Je pense qu'on est en face d'un ennemi qu'on connaît très bien, qui est capable de beaucoup manipuler. Je pense qu'il faut les lier les pieds et les mains et l'amener vraiment à la face du monde pour dévoiler sa très mauvaise foi et ses mauvaises intentions de vouloir occuper le pays. Sinon, aucun leader politique ne peut jouer avec le feu. Personne ne peut souhaiter que la guerre continue dans ce pays, puisqu'on l'a vu avec Mobutu. Il a laissé pourrir la crise à l'est du pays et il est tombé de cette crise-là. C'est des trucs de nationalité, des trucs d'ethnicité, c'est des trucs de milices, ainsi de suite. Et c'est cette crise-là qui l'a emporté et il n'a pas pu résister. Et donc, les leçons de l'histoire sont là. Je ne pense pas que la majorité actuelle soit aveugle. Elle a comme ça des analystes qui sont bienveillants et qui savent bien regarder à face pour savoir qu'on ne peut pas jouer avec le feu qui est allumé dans ce pays. Si on les laisse s'allumer continuellement, eh bien, il va s'allumer jusqu'à Kinshasa. On connaît déjà comment ça se passe. Donc, il n'y a pas de raison d'être pessimiste. Et donc, j'encourage tout le monde, opposition tout comme majorité, et tous les scientifiques à demeurer optimistes et à continuer à être prudents et à montrer les dangers qui sont devant nous quand nous sommes en train de négocier avec ce pays qui a trop troublé la paix dans notre pays.
Arsène Mouaka, professeur député national, élu de Béni Territoire du Nord Kivu, cadre de l'Union Sacrée de la Nation. Nous sommes en train de conclure cette émission. Qu'est-ce qu'il faut faire cette fois-ci pour que cette nouvelle entente de faire progresser l'accord, les accords de Washington soit tenue, que le suivi du cessez-le-feu et le contrôle des mouvements des troupes le long de la ligne de contact soit effectif? Et surtout, est-ce que, un peu comme est en train de craindre Jean-Baptiste Moïse Kasekwa, est-ce que la RDC n'est pas en train de se faire avoir ses ressources à vil prix aujourd'hui pour les valoriser à des grands prix demain?
Très clair que nous sommes en difficulté, c'est clair qu'une partie de notre pays est occupée, mais très clair que cet ennemi qui occupait facilement notre pays, en 9 mois, il pouvait arriver à Kinshasa. Aujourd'hui, plusieurs années, il n'est jamais arrivé à Kinshasa. Lui-même est bloqué. Et donc, il y a eu changement d'attitude, changement de comportement politique, et je pense qu'il y a de nouvelles donnes. Le régime actuel a mis dans la balance des données nouvelles et une manière nouvelle d'agir. Nous encourageons cette manière d'agir et nous encourageons le régime actuel à être attentif aux critiques de toutes les parties et même de l'opposition et à pouvoir maximiser les chances et la possibilité une fois pour toutes de pacifier le pays. Mais pour ce qui est des minéraux et de tous les accords, je pense qu'il ne faut pas beaucoup supputer. C'est le premier gouvernement aujourd'hui qui dit arrêtez d'exporter tel minéraux, essayez de créer un mécanisme d'une valeur ajoutée au pays, essayez de faire ceci. Des lois sont changées pour essayer d'adapter les réalités de la gouvernance aux nouvelles données des accords. Et je pense qu'il faut encourager le gouvernement actuel et continuer à le critiquer dans le sens de construire la paix plutôt que de favoriser tout pessimisme et essayer de démoraliser même les citoyens. Donc les choses avancent très bien, mais difficilement, bien sûr, et il va falloir que le ménage travaille et que la diplomatie continue à travailler, en plus des victoires qui ont été enregistrées.
Merci Arsène Mouaka. Jean-Baptiste Mouyindo Kasekwa, ancien député du Nord Kivu, premier vice-président du parti politique de l'opposition Engagement Citoyen pour le Développement et SID en sigle. Est-ce que ce n'est pas un énième scepticisme de votre part de penser que la RDC, à travers cette entente et de manière globale, à travers les accords de Washington, est en train de perdre plutôt que de gagner?
Non, Donna, je voudrais simplement souligner que plus nous plaçons nos espoirs dans la paix qui va venir des États-Unis, de Doha, de tous les partenaires extérieurs, plus nous prolongeons les calvaires de nos populations, plus nous prolongeons l'agonie de notre pays. Et comme je l'ai dit, la crise M23 risque de s'aliser comme la crise de massacre des ADF qui ont commencé en juillet 2013. Nous sommes à 26 ans aujourd'hui et plus personne n'a pas. Et donc, je sonne l'alerte pour dire, prenons le courage de constater que le processus de Washington est à panne et que éventuellement, d'ici octobre, tel que l'agenda est défini, tout ce que nous aurons, ce sera un communiqué conjoint pour dire nous transférons, nous passons les relais au Togo et à l'Union africaine. Or, nous connaissons les limites de la médiation togolaise, de la médiation africaine, raison pour laquelle je nous invite, en tant que Congolais, à nous approprier notre problème. Il y a déjà une initiative SSC5O. Voyons comment nous pouvons l'améliorer. Saisissons, sauvons le processus du dialogue inclusif avec des acteurs sérieux pour que nous débattions toute cette question une fois pour toutes,
vous l'avez dit,
comme lors du processus de Kampala, et nous pouvons retrouver la réunification du territoire national, reconstruire les outils de paix et de défense de notre pays.
Merci.
À nous approprier nous-mêmes la recherche de la solution.
Merci Jean-Baptiste Mouindo. Frédéric Amani, que peut-on, selon vous, retenir de ces actions effectuées récemment entre la RDC et le Rwanda dans le cadre du processus de Washington?
Ce sont des actions qui se mettent en place dans des processus de négociation, mais malheureusement, cela tend à montrer que chaque parti veut tirer les draps de son côté. Mais nous souhaitons que ces partis engagés à ces processus s'engagent de manière ouverte, c'est-à-dire posent des actions concrètes pour que la paix et la sécurité reviennent, parce que plus la guerre s'aggrave, plus la paix devient nécessaire, ou je dirais urgente, pour préserver l'humanité. Et donc la RDC et la région de Grand Lac à ne plus vivre, n'est-ce pas, cette catastrophe. Donc nous saluons les initiatives et nous invitons surtout la RDC à s'inscrire dans une approche d'une diplomatie stratégique et que eh ben, cette stratégie et cette diplomatie stratégique va avoir des intérêts stratégiques aussi dans les négociations pour préserver sa souveraineté et faire entendre sa voix par rapport à ce qui se passe à l'Est pour que la paix et la sécurité reviennent dans la région des Grands Lacs.
Frédéric Amani, Jean-Baptiste Mouindo, Arsène Mouaka, merci à vous tous trois de votre participation à cette édition. Merci à Patrick Kiasongwa, Blaise Ndongala, Chembe et Lokou pour leur appui éditorial. Dialogue entre Congolais s'arrête ici pour aujourd'hui. Dona Madimba, c'est moi à la présentation. Merci de votre attention. Au revoir.